Vous voulez que je parle? Ou vous voulez que je me taise?
Parle-moi, Irina.
Je ne sais pas quoi dire. Vous voulez que je vous raconte un film? Vous voulez que je vous raconte comment j'ai changé de sexe?
Pascal Paradou.
50 ans après sa création à Paris, L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, pièce majeure de copie, est recréée à Paris, là aussi dans le même théâtre, par Thibaut Croisy, qui s'est aussi attelé à faire rééditer le théâtre de cet auteur né en Argentine et débarqué en France dans les années 60. Théâtre inquiétant ou délirant, selon qui le met en scène, mais toujours d'une folle liberté. Bonjour Thibaut Croisy.
Bonjour Pascal Paradou.
Vous êtes trop jeune pour avoir connu copie, puisqu'il est mort en 1987. Comment l'avez-vous rencontré? Est-ce que c'est le hasard ou il est devenu pour votre génération un classique?
Ça a commencé comme un hasard, c'est-à-dire que ça remonte un peu à l'enfance, voire l'adolescence. Un jour, quelqu'un m'a conseillé de lire une pièce de copie. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais je pense que ça devait être dans les années 90-2000. Je ne savais pas qui c'était. J'étais sans doute au collège à cette époque. Et comme j'étais, un bon petit soldat, un bon petit élève, je suis allé à la bibliothèque chercher copie. C'est assez drôle parce que c'était la bibliothèque de la rue Mouffetard, et je ne savais pas, je l'ai appris des années plus tard, que c'était à cet emplacement-là qu'il y avait le théâtre de l'Épée de Bois où Copie avait créé Eva Perón en 1970. C'est un théâtre qui a été détruit et ensuite remplacé par une bibliothèque. Bref, donc j'ai emprunté un livre de Copie, et Copie, à l'époque, n'était plus disponible en librairie. Et le livre que j'ai emprunté, je m'en souviens encore, ça s'appelle Le Frigo. C'était une pièce de Copie. Et en fait, quand je l'ai lu, je l'ai lu dans ma chambre d'enfant et je l'ai dit à voix haute en même temps que je la lisais. Et je ne savais pas pourquoi, mais il y avait une énergie dans cette écriture. Il y avait une oralité. Cette pièce aussi, Le Frigo, c'est un solo, c'est une voix solitaire, comme ça, comme vous l'avez dit, qui est en liberté, qui délire, qui parle, qui fait des tours. Et je l'ai dit en fait. À qui, j'en sais rien, mais voilà, quand je l'ai lu, je l'ai parlé. Et voilà, et cette énergie-là m'a bien sûr troublé. Et ensuite, j'ai lu les autres pièces de copie, et j'insiste un peu sur l'énergie, parce que ça, c'est des écritures aussi que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose, qui est passé, quelque chose de cet ordre-là, en fait.
Et vous ne saviez pas à l'époque que vous alliez faire du théâtre? Vous en rêviez peut-être, mais...
J'en faisais dans un atelier de quartier, et c'était à l'issue d'une représentation qu'une personne que je ne connaissais pas m'avait dit « Tu devrais lire du Copie ». Et pour la petite histoire, après, je suis allé le revoir, ce monsieur qui était venu me voir après, on avait joué, je ne sais plus, un spectacle de fin d'année, et je lui avais dit « j'ai lu l'auteur que vous m'avez conseillé ». Et en fait, j'ai appris, il m'a expliqué pourquoi, en fait, il avait joué La Tour de la Défense, qui est une pièce de Copie, à sa création, avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Clémenti et Jean-Pierre Calfon, au Théâtre Fontaine en 83. Donc, ça c'est...
Il n'y a pas de hasard. Alors, de son vivant, Copie a quand même surtout été mis en scène par toute une génération de metteurs en scène argentins. Oui. Il y a eu Georges Lavelli, Alfredo Arias, qui avait fui la dictature argentine. Puis ensuite, il y a eu Marcial Di Fonzobo, lui aussi argentin. Est-ce qu'en le mettant en scène, vous le libérez un peu de ses origines, j'ai presque envie de dire, d'un certain folklore?
Alors ça, c'est... Il y a deux tiroirs dans la question. C'est-à-dire que les origines, j'ai envie de vous répondre, Copie n'a pas d'origine. C'est-à-dire qu'il s'est toujours amusé à brouiller, justement, son origine. Son origine est complexe. En ce qui concerne la question du folklore, je ne sais pas. Peut-être que effectivement, les représentations des pièces de Copie, ou un certain nombre de représentations, ont reconduit, peut-être, un folklore, mais on peut le dire autrement, un type de représentation, peut-être parfois un peu stéréotypé, un peu caricatural, auquel les spectateurs se sont habitués et qui a sans doute, pour le public, produit un conditionnement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des spectateurs qui ne connaissent pas bien Copy, mais qui ont vu toujours les mêmes représentations, type, alors là je vais faire un peu des raccourcis, mais ça peut être ça, type l'Alcazar, type la Cage aux Folles, ou alors du théâtre de boulevard un peu cliché. En fait, Copy, ça n'est pas ça. Copy était très intéressé par le théâtre de boulevard, me semble-t-il, et par le vaudeville, mais c'est une parodie. Alors entre le boulevard et la parodie du théâtre de boulevard, il y a un degré d'écart, il y a un étage d'écart. Bon.
Alors lui qui a toujours joué sur les identités, question compliquée, quelle serait son identité et quel est l'adjectif que vous utiliseriez, vous ? Est-ce que vous diriez qu'il est révolutionnaire, militant, subversif ?
Il n'en a pas d'identité.
Point.
Il n'en a pas. C'est-à-dire que, justement, toute son œuvre, et je crois aussi toute sa vie, puisque les deux se sont confondus, comme pour tous les grands auteurs, je pense, et pour les poètes, toute sa vie a été de déjouer la fixité de l'identité, l'assignation et l'auto-assignation. Et Copy, alors ça n'a pas été théorique, ça n'a pas été calculé, c'est ça aussi que j'aime, voilà. C'est des coups d'éclat successifs, mais Copy n'a jamais voulu rentrer dans une case, appartenir aussi à une chapelle, à une école, à un courant, hein, et son théâtre met en scène aussi cette liberté-là, et le fait, si vous voulez, bon, c'est aussi la question du langage, que l'identité, elle n'est jamais fixe, elle ne se définit pas. Alors Copy, puisque vous m'avez parlé de militantisme et de révolution, Copy, justement, il est à rebours de tout ça, parce que le militantisme, quand même, va quand même essayer de fixer l'identité ou de la revendiquer. Chez Copy, pour le dire simplement, se revendiquer est un acte comique, dérisoire, parce que vous pouvez essayer de vous revendiquer, mais ça vous enferme toujours, et dans la revendication, il y a quelque chose qui vous échappe. Donc la revendication, elle tombe toujours à côté de ce qu'on est. Et il y a quelque chose, et moi d'ailleurs, c'est un sentiment que je trouve aussi, il y a quelque chose de comique là-dedans.
Mais il est en même temps l'enfant des années 70, c'est-à-dire post-68, et il a accompagné toute une série de mouvements de libération des droits pour les homosexuels ou les transgenres, dont il a été un peu, peut-être malgré lui, un porte-drapeau.
Alors ça, c'est un peu l'image qu'on en a. En réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Copy, effectivement, écrit du théâtre au moment où il y a les mouvements de libération, notamment le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, dont l'un des animateurs est Guy Hockenheim, qui est un de ses proches amis, qui est même son voisin à un moment donné. Mais Copy, en fait, ne fait que se moquer de ces mouvements-là, de ces militants-là. Et donc, vous voyez, il y a une attitude qui est assez ambiguë vis-à-vis de ça. Et je dois aussi quand même préciser que Copy, il est né en 1939 en Argentine. Donc, il y a tout un pan de sa vie qu'on connaît beaucoup moins et qui trouve sa racine dans les années 40, en fait. Donc, bien sûr, nous, on le connaît par son théâtre un peu post-68-art, mais il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus complexe. Et Copy ne fait pas du théâtre à message. Donc Copy, non, il ne défend surtout pas les droits. Alors là, je pense que ça le ferait bien rire, d'ailleurs.
Alors Copy, en tout cas, est l'auteur d'une œuvre assez importante, avec 8 romans, je crois, une vingtaine de pièces de théâtre, écrites sans préméditation, disait-il.
Je n'ai jamais aucune idée de ce que je vais écrire avant d'avoir 3 stylos à billes et 4 cahiers bien gros, dans un endroit quelconque où je vais m'asseoir et écrire pendant longtemps. Je mettrai longtemps à écrire des pièces, 4 mois, 6 mois. C'est très très long. Mais je n'ai aucune idée. Hein. Je pars de zéro et puis il me critique.
Thibaut Croisier, est-ce qu'il y a de la coquetterie chez Copy quand il raconte ça, ou au contraire, c'est la preuve qu'il cherche et il cherche finalement à aller au plus profond dans l'inconnu ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de coquetterie. Il y a à la fois, effectivement, ce travail de liberté. Copy, ça m'a touché d'entendre cet extrait-là, parce qu'il l'a souvent dit. Il a souvent dit que lui, la manière dont il s'amusait, c'était en se mettant devant une feuille blanche. Je rappelle que Copy était dessinateur aussi, et en libérant son imagination. Et justement, son imagination, elle s'incarne parfois dans le dessin, parfois dans l'écriture de pièces, de romans ou de nouvelles, mais il y a quelque chose, comment dire, qui est l'ordre du déclic. Enfin, il ne prémédite pas ce qu'il va écrire. Et en même temps, il le dit très bien dans cet entretien, il travaille. Hein. C'est pas un coup d'éclat comme ça, et c'est pas le jaillissement et le premier jet qui est le bon. Donc ça, c'est aussi un cliché que je veux un peu battre en brèche, parce qu'on a parfois pensé que Copy, c'était écrit à toute allure comme ça du premier jet. Pas du tout. Moi, j'ai travaillé sur les manuscrits de Copy, donc j'ai vu aussi les strates d'écriture successives, et il y a un travail évidemment d'écrivain. Mais ce qui est assez touchant, c'est que Copy n'a pas glosé et n'a pas commenté son œuvre comme tous les écrivains ou tous les artistes ou tous les metteurs en scène le font. Il a fait les choses et il ne les a pas expliquées. Et ça, ça me touche beaucoup.
Thibaut Croisy, pour redécouvrir Copy, vous allez nous raconter votre mise en scène de l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer. Après le duo Mathias Malzieux, Daria Nelson.
Apprendre à apprendre,
encore et encore,
chantons dansons, c'est une raffinerie du temps qui passe,
qu'il nous faudra mettre en place.
Oh, cultiver le suc, la substantifique moelle.
Percer les nuages, avaler les orages,
et les digérer en courant droit vers le ciel.
Grandir, s'agrandir, agrandir la famille,
pousser sans détruire nos enfants intérieurs.
Apprendre à apprendre, encore et encore.
Apprendre à apprendre encore et encore.
Faire de nos vies
une symphonie du temps qui passe. Une symphonie du temps qui passe. Du temps.
Digérer les naufrages,
célébrer nos sauvetages,
s'offrir le présent,
ce cadeau bleu,
le ciel écarlate, les étoiles en plein jour,
le vent d'amour qui me porte, emporte tout,
emporte-nous, emporte-nous,
vers le fleuve ou la vie neuve,
coule à flot de nos veines ruisseaux,
fonte des neiges à boire au goulot,
de nos lèvres plus douces que l'aile de l'oiseau,
apprends à apprendre. Oh, à tomber de plus haut.
Apprendre à apprendre le courage des oiseaux.
Faire de nos vies une symphonie du temps. Une symphonie du temps qui passe. Du temps qui passe. Une symphonie du temps qui passe. Du temps qui passe. Une symphonie du temps qui passe.
La symphonie du temps qui passe, titre du nouvel album du romancier chanteur ou chanteur romancier Mathias Malzieux. Thibaut Croisy est aujourd'hui notre invité pour sa mise en scène de l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, pièce écrite en 1971 par Raoul Damonte Botana, dit Copy. Et c'est sa quatrième ou cinquième pièce. Vous dites que c'est une pièce froide. Pour quelle raison ?
Bon, je le dis parce qu'elle se passe déjà en Sibérie. Donc il y a aussi cette référence un peu à Tchekhov, au théâtre de Tchekhov, que Copy aimait beaucoup. Et puis, elle est froide en raison de ce que les personnages aussi, à un certain moment donné, se disent. Voilà. Je fais un peu le distinguo entre des pièces froides et des pièces chaudes. Celle-ci peut avoir un côté glacial dans l'écriture, ce qui n'empêche pas d'avoir de la température qui va se réchauffer. Hein. Il y a différentes températures dans cette pièce. Mais elle peut avoir un côté gelé.
Et il y a un titre étrange quand même à cette pièce, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, sachant qu'il n'est pas vraiment question d'homosexualité dans ce texte, mais plutôt de transgression sexuelle. Là, on est en fond.
là on est
à fond.
Oui, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'identité et les mots. C'est-à-dire que la pièce de copie est bizarrement faite, et certains ont pu s'y tromper, je crois, c'est que le titre est un peu en trompe-l'œil. Au seuil de la pièce, il y a ce mot, l'homosexuel, qui est pour le coup une catégorie, une définition et une assignation. Et la pièce met en scène, justement, des personnages qui ne rentrent pas dans des cases. Donc il y a un écart, si vous voulez, entre le titre et entre ce que les êtres sont, entre le mot et entre ce que le corps est. Et donc justement, la pièce va battre en brèche le titre et le spectateur va essayer d'identifier ou de localiser l'homosexuel du titre et il n'y arrivera pas, un petit peu comme dans La cantatrice chauve de Ionesco qu'on attend et qui ne vient pas. Peut-être parce qu'un homosexuel, ça n'existe pas en soi, comme une femme en soi avec un F majuscule, c'est une étiquette, vous voyez ce que je veux dire.
Quelques éléments de contexte, l'action se passe donc en Sibérie et ça commence par des reproches, madré, reproche à Irina qui est le personnage central d'avoir raté son cours de piano.
Tu hais le piano, mais tu aimes les steppes infestées de loups. Tu aimes Mozart, mais tu adores le mensonge. Qui est ton amant, Irina?
Je n'ai pas d'amant.
C'est le petit travesti blond qui habite chez Katharina la Grande. Je l'ai reconnu, malgré son grand chapeau à voilettes. Je le trouve assez vulgaire.
Au moins, lui, il a une bite.
C'est la seule chose qui t'intéresse au monde, de te faire baiser par un coiffeur à voilettes dans les toilettes de la gare entre midi et 5 heures.
Entre 2 heures et 4 heures et demie.
Un chat est donc un chat. On parlait de langage acéré, il est très décomplexé. Copie, Thibaut Croisy.
Cette pièce, effectivement, là aussi, va à rebours du titre, puisque le titre, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, peut laisser présager une pièce psychologique, hein, surtout dans les années 70, où le personnage de l'homosexuel est moins fréquent sur les scènes de théâtre, ou alors sur un mode justement psychologique, et la pièce
est très caricaturale. Vous évoquez dans la postface que dans ces mêmes années, c'est La cage aux folles qui est sur les scènes parisiennes et qui met en scène donc des homosexuels hyper hystériques, hyper féminins. Enfin, autre chose, quoi.
Tout à fait. Et puis, il y a aussi toute une tradition qui est aujourd'hui un peu moins connue, qui est celle du mélodrame, où l'homosexuel est une figure victimaire, à la fin, qui va se suicider, ou qui va partir, qui va fuir, parce que c'est un élément de déviance, hein, pour la société. Bon, donc, copie, là aussi, le titre, encore une fois, est en trompe-l'œil, puisque la pièce n'est pas une pièce psychologique, et elle peut paraître décomplexée. Après, copie a un rapport plus complexe que ça, à l'homosexualité ou à la sexualité, je dirais.
Alors si on rit dans cette pièce, on rit, c'est quand même très très grinçant. Et tout votre travail de metteur en scène, c'est d'avoir justement installé une tension digne d'un film de suspense et d'avoir un peu ralenti tous les échanges, tous les dialogues, toutes les répliques. Il y a du silence.
Ah oui, comme dans la vie. Une pièce sans silence, pour moi, ne peut pas exister. C'est pas possible. Donc, je n'ai pas ralenti. Peut-être j'ai ralenti par rapport aux autres représentations que les gens ont vues. Je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas faites. Mais comme dans toute pièce de théâtre, il y a des temps, il y a des silences, il y a des accélérations. Copie, vraiment, dans l'écriture, les acteurs, les actrices peuvent en témoigner. C'est un théâtre qui est vraiment branché sur un rythme très étrange, hein, qui effectivement se ralentit, mais qui s'accélère, qui est parfois endiablé. Il y a la mécanique du vaudeville, il y a des climax. Donc, il y a une rythme en fait très particulière. Moi, j'ai essayé de la jouer, cette rythmique. Donc s'il y a des accélérations à des moments, il y a aussi des temps. C'est vraiment, j'ai fait un travail très simple.
Mais on entend l'écriture de copie avec votre mise en scène, qui est une écriture assez tranchante, très simple, sans fioritures.
Ben oui.
Et qui rend ce spectacle, cette pièce, finalement très contemporaine.
Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, voyez. Ce qui m'intéresse, c'est de faire entendre cette écriture et cette voix. On parle d'écriture, mais pour moi, c'est aussi une voix. C'est-à-dire que ce jeune homme, qui avait une trentaine d'années en 71, il a été traversé par ces voix-là, qui sont devenues des personnages, Garbo, Irina, Madré, hein, les militaires qui rôdent aussi dans cette Sibérie, et ce sont des voix qui l'ont traversé, et moi, je trouve ça tellement touchant, vous savez, mais ça, c'est le principe du théâtre, mais de les faire passer aujourd'hui, et de faire entendre ces voix intérieures-là. Et après, on les fait entendre dans le théâtre où elles ont été entendues pour la première fois, puisque la pièce a été créée là, en 71. Donc, l'écriture...
Au théâtre de la Cité Internationale, c'est là où vous jouez. Voilà. Sur l'écriture, vous l'avez rappelé, Coppi était dessinateur, et quand il arrive à Paris à 22 ans, il commence d'ailleurs par faire des dessins dans le Nouvel Obs, et il va être très vite célèbre avec un personnage qui s'appelle la femme assise, qui commente la vie et l'actualité. Du dessin au théâtre.
Au début, à ce moment-là, je faisais des dessins assez longs déjà. Et peu à peu, parce que à ce moment-là, le journal était, je veux dire, il y avait quelqu'un qui devait prendre plus de place, un autre moins, il y avait la publicité qui commençait à arriver. Et j'ai commencé à rétrécir le dessin, mais presque depuis le début. Le premier dessin, la femme était debout. Et comme il fallait passer quelque chose en bas, je l'ai assise. Parce que ça prenait moins de place, les bulles, tu vois. Et ça s'est rétréci comme ça. C'est-à-dire, finalement, parfois, j'avais 12 dessins et tout ça. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, je me suis senti un peu enfermé à l'intérieur d'un journal. Mais c'est comme dans le théâtre. Mais si tu as les moyens, tu peux faire rentrer des chars romains, des hélicoptères, des tanks. Tu peux tout faire sur un plateau. Mais si tu n'as pas les moyens, tu fais du théâtre assis.
Thibaut Croisy, c'est du théâtre assis, Coppi ?
Je ne sais pas, mais en l'écoutant et en repensant à votre question, c'est aussi du théâtre qui a ses propres silences. Vous savez, une des particularités de Coppi dans le dessin, puisque là, il parlait de ses dessins, c'est que Coppi dessinait les silences. Si vous connaissez la femme assise, elle parle, mais il y a des dessins où il n'y a pas de parole. Il y a ces fameux temps qui ont été écrits. Donc vous voyez, par rapport à votre question tout à l'heure, je n'ai pas cherché à ralentir Coppi, j'ai cherché à marquer les temps.
En tout cas, il y a ce vocabulaire, ce langage qui est très acéré, qui est très dessiné, que vous transcrivez aussi dans l'espace scénique au théâtre de la Cité Internationale, parce que finalement, c'est le langage qui fait l'action. Il se passe très peu de choses. Comment raconter cette pièce ?
Oui, c'est le langage qui fait l'action.
C'est une folie langagière.
Je ne sais pas si c'est une folie langagière. C'est un langage qu'on essaye d'attraper. Et ça, c'est effectivement peut-être une métaphore aussi du travail de l'écrivain. On cherche à attraper du langage, mais c'est aussi ce que nous vivons tous avec le langage. Et par rapport à la question de l'identité aussi, on cherche à se définir. Moi, je ne jette pas la pierre aux gens qui essayent de s'auto-assigner. Après tout, pourquoi pas ? On a bien le droit d'essayer de savoir ce qu'on est et de poser des mots sur ce qu'on est. Pourquoi pas ? Mais parfois, tout ça, ça demande un effort. Et parfois, tout ça, c'est une sorte de voyage, d'errance. On se perd. Bon, donc, c'est le propre rapport de soi au langage, vous voyez, et c'est ça aussi que la pièce met en scène de manière infernale et aussi parfois juste, parce que parfois il y a un mot qu'on attrape, c'est physique avec le langage.
Et très troublante, parce que, en tout cas dans votre mise en scène, on est très troublé, mais parce que c'est aussi écrit, parce que les personnages changent de sexe, tous ont plusieurs identités, pardon, et les frontières entre eux d'ailleurs sont brouillées.
Je m'appelle... Madame Simpson.
Excusez-moi. Votre fille m'avait dit que vous vous appeliez Suzanne.
Elle délire.
Madame Simpson, est-ce que je peux la voir ?
Non, elle dort.
Et si je vous demandais de la voir simplement dormir ?
Je connais bien votre genre de femme, madame. Elle n'ira plus jamais à votre cours de piano. Finissez votre Mirabelle et partez.
Madame Simpson, j'aime votre fille.
Ce n'est pas une fille pour vous, Madame Garbo.
Pourquoi, Madame Simpson, dites-moi au moins pourquoi.
Ma fille n'est pas une bourgeoise, madame. Nous traînons un lourd passé.
Moi aussi, j'ai été opérée à Casablanca. Madame Simpson, j'ai un sexe d'homme.
Ce n'est pas possible.
Touche.
Emmanuel Lafont et Frédéric Leigen dans L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer dans votre mise en scène, Thibaut Croisy, formidable comédien. Il faut aussi citer Elena de Laurence qui joue Irina, donc la fille. Cette question du genre est plus prégnante encore aujourd'hui, me semble-t-il, que dans les années 70, puisqu'on revient sur ces questions d'assignation et de définition. De nombreux jeunes gens aujourd'hui se déclarent binaires ou non-binaires.
Oui.
C'est cela qui fait l'actualité de ce texte-là, de Copy aussi ?
Non. Non. Parce que Copy est un auteur d'avant le genre. Hein. Les gender studies, il ne les a pas connus. Judith Butler, il n'a jamais su qui c'était. C'est un théâtre baroque. Et vous voyez, là on l'a bien entendu dans votre extrait, c'est un théâtre qui met en scène des identités en perpétuel mouvement. Hein, des identités qui tournoient. Donc ça, on n'a pas attendu Judith Butler pour y penser. Hein, le théâtre baroque fonctionne là-dessus. L'illusion comique de Corneille, par exemple, je prends cette pièce-là, elle me vient, bon, fonctionne là-dessus. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. L'identité qui est en perpétuelle métamorphose. Mais aussi, ce qui est beau dans le théâtre de Copy, et ça c'est encore propre au théâtre, c'est que chez Copy, on peut être ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je veux là être Madame Simpson, je suis Madame Simpson. Si j'ai envie d'être un rat, je peux être un rat. Si j'ai envie d'être le micro, je suis le micro. Parce que le théâtre permet, c'est ça aussi, d'être ce qu'on veut. Et chez Copy, et c'est encore ce que vous me disiez tout à l'heure, l'identité, elle passe aussi par le langage. J'ai envie d'être une souris, un morceau de pain, je le suis. Bon, donc... c'est nous qui décidons, d'une certaine façon.
D'où la liberté.
Oui, oui, voilà, d'où c'est aussi le paradoxe du langage, parce que le langage nous emprisonne et nous pose beaucoup de problèmes, et en même temps, parfois, il y a des faits de langage qui peuvent nous ouvrir des portes. Donc, c'est pour ça que la question du corps, elle est vraiment articulée chez Copy à celle de la langue. Et donc, vous voyez, j'en reviens à ça, c'est vraiment un théâtre, comment dire, qui fonctionne avec des mots et avec de l'écriture, et pas que, justement, de l'esbrouf et vous voyez, du délire et de l'hystérie.
Et des paillettes.
Et des paillettes.
Alors,
si on veut, oui.
Je le disais en commençant, vous participez à la réédition des œuvres de Copy, avec pour l'instant la réédition d'un roman et de deux pièces de théâtre, dont L'homosexuel. Est-ce que c'est un début où tout le théâtre et toutes les œuvres de Copy vont être rééditées ?
Oui, bah, on s'est lancé avec les éditions Bourgois dans cette aventure au long cours. Il y a une réédition de Copy chaque année en poche. Donc, une année, c'est un roman, une année, c'est une pièce, parce que aussi les gens savent peu que Copy a écrit des romans. Et aussi des nouvelles. Ces éditions sont accompagnées voilà, de textes critiques que j'écris avec un point de vue, après, qui vaut ce qui vaut, mais voilà, qui remettent aussi, ces textes en perspective. Et on continue, voilà, chaque année, ce cycle. Et comme le dit l'éditrice avec qui je travaille chez Bourgois, Noémie Sauvage, elle dit il n'y a pas d'actualité de Copy. L'actualité de Copy, elle est tout le temps. Elle est voilà. Et moi, j'aime bien ça, effectivement. Elle est Copy, pour moi, c'est... Enfin bon, comme les poètes, les grands auteurs. Bon, l'actualité, après, peut-être qu'elle les met en lumière à des moments. Mais voilà, on essaye aussi de montrer que cet auteur-là a construit une œuvre, une drôle d'œuvre, pas une œuvre préméditée, pas une œuvre qu'il a commentée, mais il y a un parcours et il y a des endroits de son œuvre qui sont moins connus. Et justement, on s'attache, avec ses rééditions, à les faire découvrir.
Avec des effets de surprise. Est-ce que quand on travaille sur l'œuvre de Copy, on devient un copieur, un copiste, un copylogue ? on est quoi ? Un amoureux de Copy, tout simplement ?
Ben, vous savez, moi, ce qui me touche chez lui, c'est aussi une attitude. Voilà, c'est une attitude très et une singularité. Vraiment, c'est un bloc de singularité, Copy. Et c'est une attitude par rapport à la vie, c'est une attitude par rapport à l'écriture et qui échappe. Voilà. Et j'aime les auteurs qui m'échappent. Et Copy, je travaille depuis des années dessus, mais je découvre encore des choses. Et voilà, c'est un petit peu comme ces rats là, qui met en scène dans ces pièces qu'on n'arrive pas à rattraper.
Merci beaucoup Thibaut Croisy. L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer se joue au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Puis vous partez en tournée et les textes sont chez Bourgois.